Écho du monde, Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le goût du monde. Aujourd'hui, nous allons voyager sans bouger de chez nous parce que oui, la cuisine en elle-même est un voyage. À travers elle, on découvre, on s'évade, on retrouve des saveurs que l'on aime, on appelle des souvenirs. Sur Instagram, il existe une invitation en voyage de chaque jour. Le compte s'appelle Dumplings and More et derrière ce compte, il y a Manel Tari et Céline Berkoun. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous avez créé Dumplings and More, c'était en janvier 2019, donc ce compte a déjà un peu plus d'un an maintenant. Le principe en deux mots, c'est que vous proposez de découvrir un pays par sa cuisine. On change de pays chaque mois et avec chaque jour une nouvelle recette. Et d'où vous est venue cette idée, que je trouve personnellement géniale?
L'origine, en fait, de l'idée, elle est assez simple. Elle est venue assez organiquement. On voyage beaucoup, on a beaucoup voyagé ces derniers temps. On aime manger des cuisines différentes et surtout des cuisines traditionnelles des pays qu'on visite. Et déjà, dans notre quotidien, on aime bien essayer des nouvelles recettes. Et c'était un peu une transition entre le moment où j'allais commencer à travailler et le moment où j'avais fini mes études. Et j'adore cuisiner, donc je me suis lancée ce défi de tester et réaliser une recette par jour. Et pourquoi pas la partager avec tout le monde sur Instagram.
Bah, sacré défi quand même, parce que c'est une recette qui est souvent assez compliquée, qui n'est pas forcément à, disons, qu'à portée de tous les cuisiniers. Et surtout, Dumplings and More, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le nom veut dire quelque chose aussi qui est assez significatif dans votre approche.
Oui, c'est super intéressant. Le mot en anglais, dumpling, est super intéressant parce qu'il veut tout et rien dire. En gros, il pourrait être à peu près défini comme une pâte cuite ou frite, et parfois farci, qu'en français on le traduirait par ravioli par exemple. Enfin, c'est déjà beaucoup plus réducteur, et en fait le dumpling, avec la définition que je viens de donner, en fait il est universel. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une culture qui ne fait pas son dumpling.
Son dumpling, c'est quelque chose qu'on peut juste tremper dans une sauce, c'est aussi l'idée d'une bouchée, d'une mise en bouche, d'une découverte comme ça, quelque chose de petit et de pas cher a priori.
C'est souvent le cas parce que quand on dit dumpling, voilà, on pense toujours au ravioli, que ce soit européen ou asiatique, en Chine ou au Vietnam, mais l'empanada, c'est un dumpling.
C'est un dumpling, ouais.
Voilà, c'est en soi, si on suit cette définition-là, c'est un dumpling. Du coup, oui, ça devient souvent de la cuisine de rue. C'est toujours accessible. En plus, la farce, c'est souvent des restes. Donc, c'est très modeste comme origine.
Vous dites dumplings and more. Alors, le more, ça veut dire et un peu plus que des dumplings, donc que cette bouchée, que c'est ce petit ravioli. Le and more, il est parce que vous faites aussi des recettes plus élaborées ou parce que vous donnez des informations, plus d'informations qu'on pourrait imaginer et qui vont au-delà de la recette?
Bah, c'est justement ça, oui. C'est le and more. Bon, alors bien sûr, c'est vrai qu'on ne se limite pas aux dumplings. On fait du sucré, du salé, voilà, la pâtisserie, parfois des plats en sauce, des légumes. Mais il y a aussi une grosse partie de notre travail qu'on considère plus comme culturelle. Déjà, on se concentre chaque mois sur un pays, mais en réalité, à chaque fois qu'on aborde un pays, on le divise en régions, puisqu'on a une approche qui est plus régionale. Ça, c'est la première approche de notre cuisine, de notre vision de la cuisine, et aussi des histoires qu'on raconte autour de l'origine de ces plats. Parce qu'on raconte toujours l'origine des plats, enfin du moins quand on y arrive.
C'est ce qui est intéressant.
Ouais.
D'ailleurs, cette approche régionale, le premier pays que vous avez visité, c'était la Russie. Mais peut-on vraiment s'arrêter au terme de Russie?
C'est
exactement ça, parce qu'au départ déjà, quand on voulait démarrer Dumplings and More, c'était plutôt une approche régionale plutôt qu'un pays, pour ne pas se limiter aux frontières. La Russie, par exemple, c'est ça, c'était vraiment le challenge, la Russie, vu que c'est un pays très grand. Quand on va du côté de la Sibérie, Novosibirsk, près de la Chine, et qu'après qu'on fait une autre recette du côté du Tatarstan, Kazakhstan, du côté de Kazan, c'est vraiment deux cultures complètement à l'opposé. C'est un même pays, mais d'un autre côté, il n'y a pas eu beaucoup de brassage entre les deux.
Ouais.
Et c'est aussi ça la richesse du pays.
C'est ça, la Russie, ben déjà on a commencé en janvier, donc c'était facile en janvier de faire la Russie, parce qu'on n'a pas besoin de tomates ou de...
Oui, c'est vrai.
Voilà, déjà. C'est qu'en fait, la Russie, c'est super intéressant parce qu'il y a eu l'URSS. Et en fait, on a tendance à penser qu'un pays d'une telle ampleur, ou avant, on appelait ça des empires, mais on pourrait croire qu'ils ont tendance à imposer la culture de la capitale aux régions. La Russie, c'est très différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on considère comme un plat russe vient en réalité de toute l'URSS. Donc il y a des plats polonais qui aujourd'hui font partie intégrante de la cuisine nationale russe, même si la Pologne ne fait clairement plus partie de... Voilà, et la Russie, c'est assez intéressant pour ça, parce qu'en fait, des plats aujourd'hui qu'on considère comme russes viennent en réalité des pays voisins, de l'ex-URSS.
Quand vous avez dit, vous avez choisi la Russie parce que c'était l'hiver, parce que du coup c'était plus simple en termes d'ingrédients, est-ce qu'il y a d'autres facettes de la Russie qui vous ont plu, intrigué, parce que peut-être vous avez voyagé dans ce pays qui est un peu à l'échelle d'un continent lui aussi?
La Russie, non. On n'y est jamais allé, malheureusement.
On aimerait bien.
Mais, alors après, ça, c'est un autre aspect. On peut en parler maintenant, mais c'est l'aspect recherche, en fait. C'est que, en soi, on a visité une infime partie des pays qu'on a cuisinés, on va dire. Mais du coup, tout le travail qu'on fait en amont se fait plus avec des contacts qu'on a, des recherches. Et ça, c'est en réalité la plus grosse partie de notre travail. Et en réalité, je pense même que si on était allé dans ces pays, on les connaîtrait pas aussi bien qu'avec toute la recherche qu'on fait à côté, quoi. Parce qu'en général, quand on y va en touriste, on connaît pas
les plats populaires. Ouais.
Ça s'est offert presque, alors que là, vous allez à la recherche des petites histoires derrière le pays et derrière des cultures culinaires de ces pays également. Comment vous avez imaginé, est-ce que c'est une carte que vous avez tracée? Parce que quand même, en un an et demi, tant de pays visités, tant de recettes données et partagées. Moi, je me suis dit la première fois que j'ai découvert Dumplings and More qu'il y avait eu une carte tracée avec des pays où on rêvait d'aller, des pays qu'on rêvait de découvrir, d'autres qu'on avait envie de partager. Plus que d'autres encore, peut-être l'Algérie, vous nous direz. Est-ce qu'il y a une carte tracée comme ça?
La carte, elle est tracée, mais disons naturellement. On était parti de la Russie, où c'était en janvier, le froid, les ingrédients qui supportent le froid, les racines, les pommes de terre. Bizarrement, l'aneth, beaucoup d'aneth.
Ah oui, oui, oui.
Une herbe très fraîche.
Oui. Et qu'on a retrouvé en Russie et aussi en Suède, les deux pays, les pays les plus froids qu'on a fait. Ensuite, de Russie, bon, la partie de la Russie, le Kazakhstan, Tatarstan. Ensuite, là, la découverte du riz, l'introduction des épices. Et à partir de ces épices-là, déjà, le curcuma, la cardamome, on est parti en Inde. En Inde, où on a surtout exploré la cuisine végétarienne, sur les 28 recettes indiennes, 26 étaient végétariennes et les deux autres, c'était du poisson et c'était surtout le sud de l'Inde. Et du coup, là, on s'est immergé dans les épices, dans les mélanges d'épices. Après l'Inde, on est parti en Iran aussi, toujours. On a enlevé certaines épices, on en a concentré toujours. La cardamome, le curcuma, le safran, l'introduction du safran en Iran, et aussi les herbes, les plats à base d'herbes.
Et le riz.
Et le riz. Ouais. Le riz basmati, toujours.
C'était le troisième pays. Chaque pays a ses spécificités qu'on découvre forcément. Et l'Iran, il y a une culture de l'herbe cuite qui est très spécifique. Faire une sauce avec une botte de persil, et où, en fait, le persil a le même rôle qu'un légume, dans la culture française, par exemple, c'est très très spécifique à l'Iran. Ça,
vous l'avez pas retrouvé dans aucun des pays que vous avez visités ensuite?
Autant non.
Non.
Non, non. C'est, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est très étonnant que de manger une sauce qui est
un ragoût d'herbe.
Un ragoût d'herbe, c'est ça. Il est épais au point que l'herbe soit plus présent que la viande ou les légumes. C'est une spécificité qui est vraiment très propre à l'Iran, ça. Et du coup, ça fait un chemin.
Ah, ça, c'était délicieux.
Et c'est beau.
Et l'omelette coucou?
Le coucou, c'est des herbes.
Parlez-nous un petit peu de ce plat coucou.
C'est toutes les herbes qu'on peut avoir au frigo. Je crois, dans la recette, j'avais mis 5 ou 6 herbes différentes. Mais en fait, c'est des combinaisons d'herbes qu'on peut avoir chez nous... la coriandre, le persil, la ciboulette, l'aneth, enfin tout ce qu'on a. On rajoute des baies d'épines vinettes. Ça aussi, c'était une découverte exceptionnelle.
Oui.
Alors pourquoi? Il faut nous dire, parce que imaginez qu'on ne sache pas, on est derrière sa radio et on entend épine vinette.
Alors, comment on décrirait l'épine vinette? Alors, c'est une baie.
Acide, mais oui. Un peu sucrée. Ça ressemblerait un peu au raisin sec, mais très acide.
Oui, c'est ça. C'est le raisin sec qui a un goût plus frais que le raisin sec.
C'est ça.
Aigre-doux un petit peu.
C'est ça. J'ai envie de ressortir maintenant. Mais c'est vrai que l'Iran, typiquement, c'est assez intéressant parce que c'est l'un des seuls pays qui nécessite des ingrédients très spécifiques. Alors, il faut trouver où pouvoir les acheter. C'est vraiment une spécificité de l'Iran, ça, parce qu'en réalité, on a des ingrédients qu'on partage tous. Ce sont des variétés différentes, parfois, dans d'autres pays, mais en réalité, les ingrédients, ils sont tous accessibles facilement. Mais l'Iran, alors, trouver des citrons noirs séchés, ça, et pourtant, c'est indispensable. Mais voilà, l'Iran est vraiment très fier de certains produits qui lui sont très propres et qui sont indispensables.
Comme la mélasse de grenade aussi. Ça.
Oui.
J'ai été agréablement surprise par l'Iran et très étonnée par le raffinement des plats et des préparations. C'était tellement bon.
On sent un poids de l'histoire très fort et très ancien.
Et c'est pour ça qu'en fait, on s'étonne sans s'étonner quand on voit le début des pays que vous visitez, parce qu'il y a Russie, puis il y a l'Inde, puis il y a l'Iran. Et en fait, ce pays, géographiquement, ces pays se sont inspirés les uns des autres, on a l'impression, dans l'histoire.
Alors, c'est une route, c'est évident, parce qu'il y a la Russie, il y a l'Inde, l'Iran, on enchaîne avec l'Éthiopie, l'Algérie, le Sénégal, enfin voilà, on en a fait beaucoup plus depuis. C'est un chemin très clairement tracé sur la carte. Et au-delà de ça, les échanges sont évidents, pas forcément ceux auxquels on pourrait penser. Parce que bon, on pourrait parler de la route de la soie, par exemple, pour les épices, c'est assez connu. Mais dans le cas de l'Éthiopie, on est juste en face de l'Inde, en réalité. Si on regarde la carte, c'est pas une route forcément qui mène à l'Europe. Mais il y a eu beaucoup d'échanges et ça se ressent aussi dans la cuisine.
L'Éthiopie, vous venez d'en parler. C'était une découverte aussi ou c'était déjà un pays qui vous attirait et que vous connaissiez, dont vous aviez entendu parler, qui est une cuisine bien particulière?
L'Éthiopie, on connaissait bien. Là encore, on n'y est jamais allé. Mais en fait, bon, ça c'est la rencontre avec le restaurant éthiopien, c'est assez facile parce que, en tout cas en France, ça devient presque courant. En tout cas, dans les grandes villes, on arrive très facilement à en trouver. Et au-delà de ça, l'histoire du pays est absolument fascinante, excessivement ancienne, parce qu'en général, quand on remonte déjà à l'Antiquité, il y a le voisin égyptien qui lui fait peut-être un peu de l'ombre, mais l'Éthiopie existait déjà. Et c'est une culture qui est étonnante parce que de l'extérieur, elle paraît très humble, parce qu'en général, on sert tous les plats sur une grande crêpe qu'on appelle injera. Donc de l'extérieur, ça paraît très modeste, j'ai envie de dire, mais le raffinement des plats n'a rien à envier à l'Iran, par exemple, qu'on mettra plus facilement dans la catégorie des plats raffinés, quoi. L'Éthiopie, c'est vraiment une réflexion très ancienne, qui se rapproche d'ailleurs de certaines cuisines asiatiques, hein. Bon, l'Inde, la relation qui existe entre la cuisine et la médecine est très proche. C'est une réflexion qui est très ancienne, multimillénaire même. Et du coup, en Éthiopie, on le ressent aussi. Et c'est vrai que c'est un peu négligé parce que c'est une combinaison d'ingrédients qui est très intéressante. Parce que, typiquement, il y a beaucoup de plats de viande, mais il y a aussi beaucoup de plats végétariens, ce qu'on ne sait pas forcément. Parce qu'en général, les plats éthiopiens qu'on connaît sont très carnés.
Notamment le plat national qui est de la viande crue.
C'est... Ça, c'est... Ouais. Il faut oser essayer. Parce que c'est très bon. Alors, dans sa version traditionnelle, c'est très, très, très épicé. Justement pour stériliser presque la viande.
Cuire un peu la viande, quelque part.
C'est ça. Mais si on en met un peu moins, c'est très bon aussi. Et plus accessible à tous.
Justement, vous dites très épicé. Que ce soit l'Inde, que ce soit l'Iran, l'Éthiopie, et même, on va dire, la majeure partie des pays que vous avez visités, chaque pays... voir chaque région à son mélange d'épices. Est-ce que ça a été une découverte, une confirmation? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces épices éthiopiennes qui sont assez incroyables aussi?
Le berbéret,
ah, oui.
C'était plutôt une confirmation dans le sens qu'on savait déjà que chaque région plutôt, avait son mélange d'épices particulier et... En Inde, ça va au-delà de ça. Chaque plat a son mélange d'épices particulier.
Chaque maison, oui.
J'avais une collègue indienne au travail qui, chez elle, ils ne faisaient pas leur mélange d'épices à la maison proprement dit. C'est-à-dire qu'ils n'achetaient pas les épices au détail. Ils achetaient différents mélanges d'épices du commerce et ils faisaient leur mélange à la maison. Mais oui, en Éthiopie, oui, il y a le berbéré aussi. Il y a trois mélanges d'épices assez prédominants en Éthiopie. Il y a le berbéré, le mitmita et le mekelecha. Le mitmita, c'était surtout pour les viandes qui se mangeaient assez crues. Le berbéré...
C'est le plus polyvalent.
Voilà, c'est ça. Mais c'est un équilibre toujours, c'est toujours un équilibre entre le relevé, disons, piquant et les saveurs un peu plus douces comme la cardamome et le gingembre, par exemple, et la cannelle aussi. Ce qui est assez particulier au départ, étant algérienne, on ne mélange jamais la cannelle et le cumin.
En Algérie.
Ben, vous avez eu le même problème parce que vous êtes tous les deux algériens, je crois.
Oui.
Oui.
Et justement, c'est en Algérie qu'on va maintenant. C'était votre cinquième pays, l'Algérie.
Oui.
Et alors, l'Algérie, ça doit être particulier, justement, de vos origines algériennes. Comment est-ce qu'on aborde? Comment est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on se lance dans son pays?
Alors, c'est un mélange intéressant, enfin, il faut rendre intéressant. Dans chaque pays, on essaye déjà de trouver un équilibre entre recettes sucrées et salées, d'entrées, de plats et de desserts, ou du moins l'équivalent local, parce que cette trilogie, elle n'est pas évidente partout. Et ensuite, au-delà de ça, en Algérie, étant donné qu'on le connaissait certes un peu plus que les autres, on se devait d'essayer de rendre justice à toutes les grandes régions du pays, ce qui est très difficile, parce que l'Algérie est assez méconnue, justement, parce qu'elle est très diverse dans ses régions. Sur la frontière marocaine, ça se rapprochera plus de la cuisine marocaine, sur la frontière tunisienne, ça se... Voilà. Le centre a aussi une infinité de particularités. Très franchement, le souci de notre approche, le message vraiment qu'on voudrait faire passer au fond dans ce qu'on essaye de faire, c'est que là maintenant, on est en train de parler de régions qui ont 50 ans, une centaine d'années pour certaines. Mais ces plats-là, ils ont plus de 1000 ans. Donc, c'est un peu absurde d'essayer de les authentifier, de dire voilà, ça c'est la recette authentique de l'Algérie ou du Maroc ou et l'Algérie est spécifiquement intéressante pour ça.
Logiquement, en Algérie, quand on cherche des recettes, étant algérien, on demande à la famille, aux tantes, à la grand-mère, à la maman.
Faut pas.
Chacune a sa propre idée de la cuisine algérienne.
C'est ça. C'est aussi le défi permanent parce que on pourrait demander à, dans tous les pays, dans toute la région du monde, on pourrait demander à 10 personnes une recette, on aurait 10 versions différentes. Et c'est pour ça que les livres sont très utiles. Les personnes qui travaillent dessus, que ce soit les chefs ou les historiens de la cuisine, on va dire qu'à certains moments de l'histoire, ont tendance à figer les recettes. À dire, voilà, ça c'est la recette authentique. Ça permet d'avoir à peu près une base. Même si elle n'est pas forcément proche de la réalité. Voilà, parce que, ben oui, typiquement, à chaque fois qu'on demandait un avis à quelqu'un, ben non, t'as mis trop de ça, normalement, il y en a moins. Voilà, mais en réalité, on cuisine tous comme ça. Le sel, c'est le meilleur exemple. Il y a des gens qui cuisinent très salé, d'autres qui n'en mettent quasiment pas. C'est, voilà, ça reste une épice.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
I love mountains, I love rolling hills, I love the flowers, I love the daffodils, I love the fireside when the light's low. Boom di ada, 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 boom. I love the ocean, I love the open sea, I love the forest. I'm a place, I love the stars above when night turns into day. Boom diada, 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 boom.
I Love the Mountain de Wilda sur RFI. Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde que nous parcourons depuis notre salon de boucher en boucher avec Manel Terry et Salim Berkoun de Dumplings and More, la page sur Instagram. Manel et Salim ont fait un voyage culinaire. On a quitté l'Algérie, votre terre, pour se rendre dans une autre terre où, là encore, vous avez dû rencontrer pas mal de discours. Il y a eu des débats autour de quelle est la vraie recette, la bonne recette et comment. C'est le Sénégal.
Oui.
Le Sénégal qui est une terre très riche, telle que vous la décrivez en termes de produits, en termes de saveurs. Vous avez été, je crois, surpris d'ailleurs en arrivant au Sénégal.
Absolument. Et on a eu l'avantage aussi au Sénégal d'avoir des conseils très fins de camarades blogueurs et instagrammeurs qui nous ont vraiment, vraiment aidés et on les remerciera toujours.
C'est le moment de parler d'Aïssatou, je crois, non?
Ah bah oui, absolument. Bah on remercie Aïssatou. Il y a Séné Cuisine aussi qui est très intéressante sur l'aspect régional. Elle parle beaucoup de recettes qui sont très méconnues, parce que justement très régionales. On aura toujours tendance à mettre très en avant les plats nationaux et à en négliger d'autres. Et spécifiquement dans le Sénégal, en fait, un peu comme l'Algérie, c'est des pays qui sont très intéressants parce qu'ils ont des variétés de territoires très importants. Sur quelques centaines de kilomètres, on peut passer du désert à la plage, et du coup, ça fait des plats qui sont forcément très différents les uns des autres. Ces pays-là sont certainement les plus fascinants, parce que quand on a beaucoup de plaines, pour parler de la Russie par exemple, même si c'est vrai qu'il y a des différences régionales, au fond les ingrédients sont les mêmes, que là, l'inverse, oui, au Sénégal, c'est très différent.
Vous avez une distance, comme en Russie d'ailleurs, ce que vous venez de dire, une grande distance entre deux, mais on va avoir deux cuisines radicalement différentes en fonction de si on s'approche du Sahel, si on s'en éloigne, si on se rapproche de la mer.
Ben, je pense, j'ai juste envie d'en parler parce qu'au Sénégal, il y avait une recette qui semblait très technique, mais qui est surmontable. On va dire, c'est le
mulet à la Saint-Louisienne,
qui est en fait un poisson entier farci d'un mélange très très riche en goût. Il y a notamment l'huile d'arachide, il y a beaucoup d'herbes, et en fait ça c'est un plat qui est plutôt récent, mais qui est fascinant parce que ça montre l'évolution du Sénégal, parce que c'est une influence culinaire qui est presque européenne dans son approche, et c'est ce qui marque en fait les échanges qui sont plus récents, on va dire, du pays. Mais voilà, enfin, c'est des découvertes. Ça, typiquement, ce poisson-là, il est très spécifique à la ville de Saint-Louis, au Sénégal. Et c'est l'intérêt, justement, d'aller plus en amont dans la découverte des régions. Voilà, c'est de découvrir des plats dont on n'entendrait absolument pas parler si on s'intéressait aux plats nationaux ou aux plats de touristes. C'est méchant.
Et c'est comme ça que se construit Dumplings and More, je crois. C'est aussi avec les échanges, les connaissances que vous avez, c'est dans ce partage constant. Je crois qu'il y a une question que vous devez poser, c'est chez toi, comment c'est? Ça a quel goût? Et qu'est-ce que ça te rappelle, j'imagine?
On se demande toujours si on arrivera à obtenir le goût que ça a là-bas, qu'importe le pays.
Non, c'est pas possible. Sachez-le, ce n'est pas possible.
Et c'est en plus, on aura beau prendre... Allez, de la coriandre.
Ça sera jamais la même.
Ce sera jamais la même. En fait, quand on avait fini la première année, on s'était dit qu'on testerait tous les pays de façon à pouvoir goûter les plats dans les pays. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas arrêté de faire de nouveaux pays. Du coup, je ne sais pas quand on aura le temps de tous d'avoir les moyens aussi.
Parfois, on fait goûter à nos amis qui viennent de ces pays-là et... Ça va?
Ah non, on a des retours assez positifs.
On a des retours positifs. J'ai fait goûter les pastillas de Kolomna russe, du coup, à une amie russe. Il paraît que c'était plutôt ressemblant.
Ouais.
Mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus simple de retrouver le goût de la pâtisserie que le plat salé en lui-même, vu que ce ne sera pas les mêmes ingrédients frais, qui n'auront pas le même goût. Par contre, avec la pâtisserie, on a toujours, c'est toujours de la farine, du beurre et des œufs, en gros.
Ben, j'imagine qu'il y a aussi, en fonction de la fraîcheur des herbes, si on parle du Sénégal, il doit y avoir des petits poissons séchés, des fraîcheurs d'herbes. On va utiliser des feuilles de ceci, des feuilles de cela, qui sont extrêmement difficiles à trouver ici. Il y a tout ça qui participe au goût du plat, j'imagine.
Oui, pour le Sénégal, il y a différents ingrédients qui sont, là encore, très spécifiques au pays, mais au fond, assez universels. comme le Netetu, le Sumbala.
Sumbala.
Oui, alors le Sumbala.
Faut dire.
C'est du poisson séché aussi. Hein. C'est comme le Netetu, le gedge aussi, je crois que c'est le gedge qui...
Le gedge, c'est le plus courant. Dans le cas du gedge, en fait, c'est un poisson qui est séché sur la plage, qui est enterré à même le sable, et ensuite en bloc. Et au final, ce bloc-là sera un concentré de goût de la mer. C'est l'ancêtre du bouillon cube, on pourrait dire, même si le bouillon cube est lui aussi très, très, très utilisé au Sénégal.
Voilà, c'est ça, c'est celui qui donnait des goûts au plat, normalement.
Oui, mais d'un autre côté, en fait, c'est assez drôle parce que spécifiquement pour le poisson, là encore, j'ai envie de dire, c'est presque universel, parce que toutes les cultures avaient ce poisson fermenté. Si on part jusqu'au Vietnam, la pâte de crevette... fermentées, c'est là aussi des crevettes qui sont mises à même le sol sur la plage, qui sont fermentées puis séchées, et ça fait en fait une pâte qui est extrêmement forte en goût, qui du coup est diluée ensuite dans les sauces. On en met une toute petite, une infime quantité pour parce que justement ça c'est des produits qui ont tendance à repousser les personnes qui ne les connaissent pas, parce qu'ils sentent soit très fort, soit ils ont beaucoup trop de goût. Mais en fait, on en met une cuillère à café dans 6 litres d'eau. Donc c'est et ça donnera instantanément un goût à ces 6 litres d'eau. C'est magique, quoi. C'est de la magie, ces produits-là. Mmh. Et ils ont tendance à être un peu oubliés. En fait, quand je parle de ça, nous, on est en France. Et en fait, autour de la Méditerranée, dans l'Antiquité, il y avait ce qu'on appelle les garums, qui sont en fait justement une espèce de fish sauce, en fait. C'est l'équivalent de la fish sauce. C'est un concentré de jus de poisson fermenté. Et en fait, ça a totalement disparu en France. Alors que ça existait encore récemment. Je sais qu'on en cuisine à Nice, si je dis pas de bêtises. C'est le pissala pour faire la pissaladière. C'est à peu près un équivalent moderne. Mais en fait, ces garums, c'est universel, mais vraiment, parce qu'on, voilà, je parlais du Vietnam, on parle du Sénégal, et ça, c'est vraiment, enfin, c'est triste, parce que ça aura beaucoup plus de goût, et toujours plus de goût qu'un bouillon cube, mais on a tendance à laisser de côté, parce que ça sent très fort, parce que c'est, voilà, c'est pas forcément très beau, et c'est triste.
Ouais, mais on en a trouvé quand même quelques-uns à Paris, hein. On a trouvé du gedge et du netetu. Par contre, c'est vrai que le yet, c'était le yet, enfin un des trois qu'on n'avait pas trouvé.
C'est de l'intérêt des ce qu'on appelle couramment les épiceries exotiques. Il y en a partout. C'est des mines d'or, qu'importe la culture, que ce soit plutôt axé sur l'Asie ou sur l'Afrique.
Oui. Après, à Paris, je les qualifierais plus d'épicerie de quartier que d'épicerie exotique.
Oui, à Paris, oui.
Mais on a le plus grand marché africain ouvert du monde, quand même, à Poissonnière. Je sais qu'on avait reçu Chihiro Mazoui, la journaliste culinaire, qui disait aussi qu'elle était venue aller dans un restaurant béninois à Paris. Elle était très étonnée, justement, de retrouver cet umami, ce goût qu'apporte le poisson mis dans les préparations. Est-ce que ça fait partie des découvertes que vous faites de ces liens sous-jacents aussi, de ces goûts et ces ingrédients qui sont partagés presque à notre insu?
On a assez peu conscience, et on essaye de le dire, quand on arrive à faire ce lien-là, on a peu conscience des échanges en dehors de ceux qui sont très connus en Europe. Je parle de nos jours à depuis l'Antiquité. Certains produits voyagent depuis très longtemps. Typiquement, si on parle de l'aubergine, les recherches génétiques du génome de l'aubergine qui ont été faites montrent que c'est originaire d'Inde. Mais en fait, depuis bien avant l'Antiquité, ça a voyagé jusqu'en Afrique. Et ces voyages-là, forcément, il y a eu des techniques culinaires qui ont voyagé aussi. Il y a eu des gestes, la façon de faire certaines pâtes. On en a découvert des liens. En cuisinant un pays, on se dit, ben tiens, dans cet autre pays, ils faisaient la même chose. Je sais pas si t'as un exemple, Manal. On en avait eu en Éthiopie, on était surpris parce qu'on avait fait la même chose en Inde un mois plus tôt. Je sais plus ce que c'était.
Il y avait des épices et du beurre clarifié.
Non, c'était plus particulièrement un plat. Ça fait déjà un an et demi.
Ces plats qui voyagent. Et on l'a évoqué, bien sûr, du bout des lèvres, l'influence et les souvenirs laissés par les puissances colonisatrices, qu'ils soient bons ou mauvais. La cuisine, elle se saisit aussi on prend un peu ce qu'on veut et on peut laisser aussi ce qu'on veut. Est-ce que c'est quelque chose qui sillonne également votre voyage dans Dumplings and More?
C'est inévitable dans le sens où qu'on aille, il y a eu un échange due à la colonisation. Alors, c'est pas forcément celle à laquelle on pense, parce que si on parle, par exemple, du bassin méditerranéen, on pourrait parler de l'Empire ottoman. Après, si on part jusqu'en Amérique du Sud, il y a les différents empires espagnols, portugais,
les esclaves aussi, que les Espagnols et les Portugais ont amené avec eux. C'est tout ça qui a fait... c'est tout ça qui a fait le mélange de la cuisine sud-américaine et même nord-américaine.
Le Brésil est fascinant pour ça.
Oui.
Parce que typiquement, le Brésil, c'est trois cuisines. C'est la cuisine brésilienne qu'on pourrait qualifier d'aborigène, qui était là bien avant l'arrivée des colons. C'est la cuisine portugaise et un petit peu espagnole aussi. Et la cuisine africaine, qui est très très forte. L'utilisation des racines, bah, on en parlait justement avec Aissatou quand on a fait le Brésil. Certains plats étaient quasiment sénégalais.
Oui, comme les acras.
Les acras, bon, les acras, c'est le meilleur exemple, oui.
Oui, c'est le meilleur exemple. On finit le Sénégal, on traverse l'Atlantique et on retrouve les acras tout de suite, préparés pratiquement de la même manière.
Qui viennent, bon, on le rappelle quand même, qui viennent d'Afrique de l'Ouest au départ, les acras. Même si on en trouve aux Antilles, on en trouve au Brésil, au départ, ça vient d'Afrique de l'Ouest.
L'Afrique qui voyage. Le manioc, évidemment.
Et le manioc, ouais.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
Cumbia del Mole de Lila Don sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, vous nous rejoignez, bienvenue. Nous sommes depuis le début de cette émission avec Manel Tari et Salim Berkoun, des curieux gourmands qui nous permettent de découvrir le monde de bouchée en bouchée grâce à leur page sur Instagram Dumpling the Mo. On vous retrouve, là on voyage encore, on est allé au Brésil, on est allé, pas encore en Australie. Est-ce qu'il y a des pays comme ça qui ont soulevé des trésors d'admiration, de commentaires, qu'on a particulièrement aimé? Il peut y avoir des surprises aussi.
Le Pérou, on a eu un pic de visiteurs au Pérou, mais après, et ça s'est pas contenté au ceviche ou au poisson cru, c'était...
C'est une question à laquelle on ne pourra jamais trop répondre, mais ces plats régionaux, hein, vraiment les plats très régionaux qui sont un peu moins connus que, voilà, bon, on a cité le ceviche du Pérou qu'on a forcément fait, les plats moins connus, en fait, c'est assez difficile de trouver une belle photo de ces plats-là. Parce que c'est des plats qu'on fait le dimanche ou, enfin voilà, le week-end en famille, et en fait, les personnes sur Instagram qui prennent de jolies photos de cuisine auront tendance à justement s'appuyer sur des plats populaires. Et du coup, en fait, justement, on en parlait aussi au Sénégal, certains plats, ne serait-ce que de changer un tout petit peu le dressage par rapport à la version traditionnelle pour le rendre un peu plus, entre guillemets, instagrammable. On ne change rien, hein, les préparations sont toutes très traditionnelles. Parfois, on prend quelques libertés pour le dressage, pour les photos, forcément. Juste changer ça, ben, je pense que même les personnes qui connaissent ce plat se disent, ben, en fait, il peut être beau. C'est, voilà, mais c'est vrai, enfin, un bœuf bourguignon, avant que vraiment un styliste culinaire se soit posé pour dire comment est-ce qu'on va le rendre joli, spontanément, on n'aurait pas dit qu'un bœuf bourguignon, c'était beau. C'est tous ces plats en sauce, ces ragoûts, c'est pas toujours facile de les sublimer.
de bien les exposer pour les rendre très appétants de plusieurs manières. Alors, il y a la question, on en a parlé au tout début de cette émission, la question des courses, parce qu'on se dit comment font-ils. Déjà, qui cuisine, qui prend les photos et qui fait les courses et comment vous organisez-vous, Manel?
Alors, je vais commencer du début. Il y a une semaine, disons, une semaine vraiment de recherche, réflexion qu'on fait à deux la plupart du temps. On sélectionne les recettes, on cherche la bonne, parfois on combine plusieurs recettes pour vraiment trouver celle qui conviendrait le mieux. Ensuite, j'écris les recettes, je fais la liste de courses et là, il faut chercher les ingrédients. On en trouve majoritairement en grande surface, mais on a la chance d'être en région parisienne et il y a vraiment toujours une boutique vraiment spécifique à chaque région. Oui. Jusque-là, on n'a pas trop eu de mal à trouver.
Mais pour ce qui est des instruments de cuisine, parce qu'il y a certains plats qui doivent se faire avec une certaine chaleur, certains ce sera de la vapeur, d'autres de la cuisson, d'autres du feu. Est-ce que ça s'est pris en compte également dans la préparation? J'imagine que oui.
Et oui, c'est pris en compte. On a acheté beaucoup d'ustensiles cette dernière année. C'est vrai.
Mais après, c'est aussi drôle parce qu'on parlait des échanges de techniques. En réalité, si on parlait de la vapeur, si vous avez un couscoussier et un cuit-vapeur, en fait, pour ravioli chinois, vous pouvez tout cuire à la vapeur.
Vous pouvez tout faire.
Ben oui. Alors après, c'est vrai que certains pays nécessitent peut-être un appareil spécifique, mais si c'est cuit à la vapeur, vous pourrez le cuire, enfin, se rapprocher. Voilà.
Oui, bah, par exemple, ça m'a fait penser au pudding. Le pudding anglais qui est cuit dans l'eau et à la vapeur, je l'ai fait dans le couscoussier.
Ouais. Et ça marche, hein,
ça marche très bien.
Hein. Voilà. Après, c'est vrai que c'est beaucoup d'adaptation quand même. On a une petite cuisine. Le feu, typiquement, c'est un défi.
Oui, le feu, c'est compliqué.
C'est même impossible. Mais bon. On essaie toujours de s'en rapprocher.
D'accord. Et ça, c'est intéressant aussi de découvrir tout ça. Et les points communs entre les différentes manières de cuire, les différentes recettes qui se rapprochent. Là, on est dans une période très particulière qui est celle où nous sommes confinés chacun chez nous. Donc, on a dû faire beaucoup aussi, ça veut dire moins de courses, ça veut dire visiter des pays aussi en fonction de ce qu'on a dans son placard. Et vous avez créé deux nouvelles catégories, on peut dire, qui est la cuisine du confinement et la cuisine du pain. Est-ce qu'il y a des recettes et des ingrédients qui sont revenus comme des incontournables en période confinée, quand justement on est en période de fond de placard et de peu? Quels sont les incontournables?
En fait, la réponse sera assez simple. Ça reste la farine, la levure et les œufs. On peut tout faire avec ces trois ingrédients. Enfin, même les œufs, on pourrait les enlever à la rigueur. Juste la levure, de la farine et de l'eau.
Là, on s'en sort comme ça.
c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes. Typiquement, une recette qui est spécifiquement vue en ce moment, c'est la chachouka. C'est super facile parce que ça nécessite assez peu de légumes et juste un œuf au-dessus. Quoi.
Il nous restait une tomate, un poivron vert et un poivron rouge au frigo. On a fait une chachouka.
Globalement, on essaye de pas trop faire de plats très difficiles. C'est vrai que alors chaque mois, il y a des plats qui sont un peu plus techniques que d'autres. Mais en fait, justement, c'est aussi le but, c'est de montrer que ces plats-là, au fond, le seul truc vraiment difficile à trouver, ce sera l'épice peut-être, et qui peut être remplacé. Donc au final, la majorité des plats, on peut les refaire. Et le pain, alors après, le pain, c'est une passion de Manel depuis longtemps. Donc,
Le pain, les pâtes. Mais si on a de la farine, on a des pains, on a des pâtes, on a des nouilles, on a même des boulettes qu'on peut mettre dans la soupe.
Oui, on a des chaussons, on a des empanadas, des tortillas, tout ce qu'on veut. Des pizzas, des calzones.
Et au final, les cuisines traditionnelles, elles laissent forcément beaucoup de place à la cuisine de reste. Alors aujourd'hui, ils sont devenus des vrais plats pour certains. Mais la majorité des ragoûts, par exemple, c'est avec les restes de viande et avec les restes... voilà, donc au final, là actuellement, le chili est en train de passer. Il y a plein de plats qui sont devenus des plats à part entière. Et pourtant, au départ, c'était avec d'ast.
Comme la ropa vieja ou cubaine. Oui, c'est là maintenant, c'est cuisiné comme étant un plat à part entière, mais c'était pour recycler les restes de viande de la veille. La viande est recuite déjà en sauce tomate pour qu'elle soit un peu plus tendre, pour lui donner un peu plus d'eau. Et juste avec du riz et des haricots, ça nous fait un second plat.
Vous avez dépoussiéré un plat français aussi, dans la technique aussi de la pâte qui entoure. Est-ce que vous
Ah, le
voyez?
citrouilla!
Voilà, le citrouilla. Alors d'où vient-il ce citrouilla? Parce qu'on est passé en France, mais on est passé en découvrant plein, plein, plein de plats et plein de recettes et plein de régions du coup.
Alors, le citrouilla, ça vient du Berry. C'est assez étonnant ce plat-là.
Ouais, au départ, on avait sélectionné le citrouilla parce qu'on voulait pas, faire un pâté croûte traditionnel
C'est ça.
avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. On s'est dit que c'était une recette un peu qu'on connaissait pas, qui était un peu oubliée. C'était la saison de la citrouille.
C'est aussi intéressant de faire le citrouilla si on parle de ce type de préparation en France. C'est intéressant de faire celui-là par rapport au pâté croûte ou à des pitiviers qui sont des plats connus, mais surtout très très riches. Ça, c'est certain. Il faut tenir le coup après en manger sérieusement. Et du coup, en fait, c'est étonnant de faire un plat qui au final est végétarien, mais qui pourtant reprend exactement, enfin. Sur le principe, on pourrait le considérer presque comme un ancêtre parce que c'est la version un peu plus modeste du pâté croûte qui, en fait, dans son histoire, a fini par devenir presque bourgeois. On pourrait le dire parce que c'est ne serait-ce que le mélange de viande, c'est déjà quelque chose qui distingue un peu la classe des personnes qui vont le manger. Le mélange de viande, c'est toujours soit un plat de fête, soit un plat un peu bourgeois. C'est drôle de découvrir ce type de plat qui, surtout en France, mais c'est ça aussi qui est étonnant parce que c'est vrai qu'on fait certains pays qui sont pas forcément très médiatisés, on va dire, mais les vraies variétés régionales françaises aussi ont tendance à se perdre, justement au profit d'une cuisine plus nationale.
Plus habituel aujourd'hui et qu'on du coup on oublie certains choux farcis notamment.
Exactement. Mais la France, ça a été des découvertes étonnantes. Le lapin au cidre, qui est picard, ajoute des baies dans son plat. Voilà, on peut ajouter des myrtilles. C'est un lapin qui est cuit au cidre. C'est une vraie sauce. Typiquement, c'est drôle parce qu'en France, on a tendance à perdre un peu le sucré-salé. Pourtant, dans la cuisine traditionnelle, en France aussi, ça a toujours existé. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi à redécouvrir. Parce que bon, on oublie aussi facilement.
Et le goût pour la conservation, parce que ces pâtés, c'est aussi une manière de conserver, de ne rien perdre. La cuisine du reste, vous l'avez dit. La conservation, elle a une bonne part aussi dans le voyage que vous nous proposez avec les cornichons notamment, tout ce qui est en bocal. C'est important pour vous de remontrer cet art culinaire aussi, cette manière de cuisiner?
C'est les bocaux, les conserves, les condiments, c'est une passion pour Salim.
Ah oui, ça y est, c'est bon maintenant. Alors, moi, au départ, c'était juste les fermentations. Parce que j'adore ça. Je trouve ça très drôle quand ça commence à faire des bulles et que ça vit. C'est très drôle et en plus, c'est plus accessible qu'on le penserait parce qu'on a une toute petite cuisine, mais on peut quand même faire des bocaux et des conservations.
Même des bières
Ouais.
artisanales.
Ça, on a poussé le vice un peu loin en Russie parce que il y a une boisson traditionnelle qui s'appelle le kvass. Qui en fait c'est ce qu'on pourrait appeler une bière de pain. Donc en fait c'est une bière que l'on commence, au lieu d'y mettre des céréales, on va y mettre un reste de pain qui s'appelle le pain borodinski, qui est un pain
Dont vous donnez la recette
donne
d'ailleurs.
la recette aussi, bah justement avec nos restes de pain borodinski, on a fait du kvass, et donc c'est en fait ce pain-là, on le laisse macérer, puis fermenter, et en fait ça finit par devenir, on dit de la bière, mais en réalité c'est très peu fermenté. Et ça se rapproche plus de la ginger beer,
C'est ça.
voilà. Mais ça a un goût très bon, presque citronné en fait à cause de la fermentation. Il y a cette acidité qui est très fruitée, et en fait c'est juste une boisson fermentée à base de restes de pain. Et ça c'est fou. Et on l'a fait dans une toute petite cuisine, donc c'est possible.
Alors, il faudra nous envoyer une photo de la toute petite cuisine. Mais comme on a beaucoup de chance dans le goût du monde, on sait aussi qu'il y aura un deuxième épisode avec Dumplings and More. Et normalement, ce deuxième épisode se passera dans votre cuisine. Donc ce sera. Alors d'ordinaire, on termine l'émission par une question toute simple, qui est un ingrédient, un ustensile que vous voudriez partager avec nous. Alors on vous écoute.
Alors pour l'ustensile, j'avais choisi la cuillère en bois. En fait, c'est pas une cuillère en bois, c'est ma cuillère en bois que j'ai depuis que je suis toute petite. En venant en France il y a 7 ans, je l'ai ramenée avec moi. Et je la garde et je fais tout avec. Je fais les ragoûts, les sauces, les gâteaux, les mayonnaises même avec ma cuillère en bois. C'est la cuillère magique. Je peux pas cuisiner sans. Et comme ingrédient, j'avais pensé à la cardamome.
Ah.
On avait commencé à voir un petit peu la cardamome dans les plats en Russie, puis en Inde, toujours en continuant notre voyage en Iran, en Éthiopie. Et à partir d'un moment, on a visité, je crois, 4, 5, 6 pays, on voyait plus de cardamome. Et puis, en revenant en Suède, j'ai remarqué qu'il y avait plein de plats sucrés et salés avec de la cardamome. Ça m'avait étonnée.
Vous étiez contente de la retrouver. Salut, pas vous.
Moi, j'ai pas de cuillère magique, donc c'est dur de choisir un ustensile.
Un bocal parfait, magique.
Alors ça m'est beaucoup, j'y tiens. Mais en fait, je pensais vraiment au mortier. Parce que ça, c'est vrai que le pilon et le mortier, c'est quelque chose qui a tendance à se perdre aussi. Alors, je suis pas spécifiquement traditionnaliste. J'aime bien quand ça va plus vite avec de l'électricité. Mais dans le cas du pilon, certaines recettes ont un goût qui ne marche qu'avec le pilon. On peut pas faire autrement.
On vous croit, il n'y a pas de souci. Un ingrédient ou pas ?
Il y a le pandan, qui est un ingrédient assez répandu en Asie du Sud-Est et qui est assez fou, parce que c'est l'extrait d'une plante qui est verte. Alors déjà, ça colore tout l'ingrédient dans un vert très, très puissant, presque fluo. Et en plus de ça, ça a un goût qui dépendra un peu de l'humeur, on va dire. Parce que c'est... En fait, dedans, il y a une molécule qui est présente aussi dans le caramel, qui est présente dans plein
dans
de...
Dans le chocolat, dans la vanille, dans le café. Et ça fait un mélange de tout ça.
Et du coup, quand on ouvre la bouteille de pandan, si on pense au chocolat, on sentira du chocolat. Si on pense au pain d'épices, on sentira du pain d'épices. C'est assez magique. Ça, c'est mon ingrédient magique.
Mais vous êtes sorcier, en fait. Ou magicien. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux.
Ah ben, merci beaucoup.
Le goût du monde se referme. Merci beaucoup, Manel, Selim, Dumplings and More. C'est sur Instagram et sur le web, dumplingsandmore.fr, tout attaché. La prochaine fois, on l'a dit, hein, je m'invite chez vous. Vous viendrez dans Le Goût du Monde nous parler de vos prochaines destinations. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce voyage ? Nous, d'ici, nous l'avons savouré. Ça fait du bien, ce goût de liberté. Si vous avez des recettes qui vous sont revenues en mémoire et que vous aimeriez partager, n'hésitez surtout pas, nous sommes là. On ne bouge pas. Cécile Bonissier a réalisé Ce Goût du Monde. Vous pouvez podcaster l'émission sur votre appli préférée, la partager, la commenter sur les réseaux sociaux. Merci à vous d'être là. Bonne semaine à tous. À samedi prochain.